mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Bonjour aux auditeurs. Quel est aujourd'hui le programme de notre conversation ?
Je te propose de commenter un aspect tout à fait remarquable des réflexions menées par René Girard. C'est qu'elle touche à une très grande variété de disciplines. Sociologie, histoire, littérature, philosophie, ethnologie, la liste n'en finit plus.
N'est-ce pas un peu normal ? Son projet était d'édifier une connaissance de l'être humain, une anthropologie. Forcément, il lui fallait bien aborder tous ces différents domaines.
Tu as raison. Et pourtant, tout au long de son cheminement et de ses publications, Girard ne cessera de dérouter les spécialistes. Dès lors, le reproche d'être, entre guillemets, un amateur qui se mêle de tout, reviendra régulièrement.
Peux-tu en brosser un petit panorama ?
Le phénomène commence dès son premier livre, « Mensonges romantiques et vérités romanesques », publié en 1961. À première vue, c'est un ouvrage d'exégèse littéraire. Certes, Girard enseigne la littérature française dans les universités américaines, mais il n'est pas du sérail. En France, il a fait l'école des chartes, puis il a obtenu un doctorat d'histoire aux États-Unis. Georges Poulet, par exemple, l'un des grands noms de la critique littéraire à l'époque, publie un article assez sévère sur ce premier livre de Girard, article dans lequel il écrit « On ne traite pas la littérature comme ça ». Il est vrai que très peu de lecteurs de mensonges romantiques et vérités romanesques ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrage sur la littérature, mais d'un livre d'anthropologie, dans lequel René Girard découvre le désir mimétique et les rivalités qu'il engendre. Au fond, les œuvres littéraires qu'il commente, Don Quichotte, Le Rouge et le Noir, Madame Bovary, À la recherche du temps perdu, sont pour lui une sorte de matière première. Voilà peut-être ce qui a tant irrité Georges Poulet.
Les choses s'arrangent-elles avec le deuxième livre de Girard ?
Au contraire. En 1972, plus de 10 ans après son premier livre, René Girard publie La violence et le sacré. Il y est question de psychologie, d'ethnologie et des mythes. À nouveau, les lecteurs sont déroutés. Que vient donc faire en ethnologie un professeur de littérature ? D'autant plus que René Girard conteste certaines thèses des courants intellectuels de l'époque, en particulier la psychanalyse et le structuralisme. Si les antagonismes à l'égard de Girard s'expriment parfois directement, dans d'autres cas, ils ne rencontrent que le dédain. Ainsi Claude Lévi-Strauss, le grand nom de l'anthropologie structurale, ne daignera jamais mentionner René Girard ni ses thèses.
Un instant, Jean-Louis. En deux mots, qu'est-ce que l'anthropologie structurale ?
C'est une anthropologie fondée sur l'approche structuraliste. Tu vas me demander en quoi elle consiste. En gros, le structuralisme ne s'intéresse plus aux personnes, aux objets, aux phénomènes, mais aux relations entre eux. Par exemple, Lévi-Strauss publie en 1948 « Structures élémentaires de la parenté ». Il s'y intéresse non plus aux personnes elles-mêmes, mais aux lois auxquelles obéissent leurs relations. Ces lois, ce sont les fameuses structures, qui donnent ainsi leur nom à cette école de pensée, le structuralisme. Or, contrairement à un être humain, un objet ou un phénomène, qui existent indépendamment de leur expression par le langage, une structure ou une relation dépend du langage pour être révélée et étudiée. Cette dépendance va engendrer le post-structuralisme, un mouvement d'idées qui considère que le réel n'existe pas vraiment, ou plutôt qu'il n'a aucune importance, car ce qui compte, ce sont les discours. Ce qui compte, c'est ce que l'on dit des choses. Nietzsche avait préparé le terrain avec cette phrase « Il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes ».
Quelle est la position de Girard par rapport à ces écoles de pensée ?
Girard reste connecté au réel. Le désir mimétique est pour lui une réalité concrète. Ce sont des êtres humains en chair et en os qui l'éprouvent. Il estime que les massacres des boucs émissaires se sont vraiment produits, contrairement aux idées de meurtre symbolique que véhicule la psychanalyse, par exemple. L'anthropologie de René Girard est une théorie réaliste. Bien sûr, elle inclut également la question des relations. Relations entre une personne et son modèle. Relations entre des rivaux mimétiques. Situation de conflit généralisé dans la communauté, situation de concorde retrouvée après l'immolation d'un bouc émissaire, etc.
Dans quels autres domaines Girard a-t-il fait irruption et bousculé les spécialistes ?
Il a par exemple apporté une interprétation assez radicale des mythes. Pour lui, un mythe est toujours le récit de la crise fondatrice de la communauté lorsqu'elle a massacré un bouc émissaire et constaté que son immolation ramenait la paix. Il rejoint ainsi une idée du spécialiste des mythes, Mircea Eliade, qui affirmait que tous les mythes sont des récits de fondation. Mais Girard va plus loin en expliquant comment cette fondation s'est produite, quels en sont les mécanismes.
Comment se fait-il que les spécialistes des mythes ne les aient pas identifiés ?
Tous les mythologues, on peut citer Georges Dumézil comme Mircea Eliade, partaient des mythes eux-mêmes et s'efforçaient de les analyser. Tandis que Girard avait déjà un fil conducteur, le mimétisme, avec son cortège de rivalités qui contamine la communauté jusqu'à la crise.
Et pour l'histoire récente ?
René Girard a attendu longtemps pour aborder ce domaine. Il l'a fait dans son dernier ouvrage, « Achevé Clausewitz », publié en 2007. Il avait alors 84 ans. Ce livre a eu un grand succès, et cette fois-ci, personne ne l'a traité d'amateur. Mais à vrai dire, son anthropologie mimétique était déjà établie depuis longtemps, et beaucoup attendaient qu'il s'exprime sur l'histoire contemporaine.
Je vais prendre la question par l'autre bout. Quels sont les domaines des sciences humaines que n'a pas abordé René Girard ?
Il y en a seulement deux, particulièrement notables. Ce sont la politique et l'économie, deux domaines pour lesquels il n'a rien écrit. Par contre, plusieurs de ses disciples ont comblé cette lacune et montré combien la théorie mimétique pouvait expliquer ce qui s'y passe. Un des interlocuteurs de Girard, dans son troisième livre « Des choses cachées depuis la fondation du monde », Jean-Michel Hougourlian, a publié de son côté un essai intitulé « Psychopolitique », dans lequel il rapproche le concept girardien de bouc émissaire de la vision du théoricien politique Carl Schmitt, pour qui, je cite, « la raison d'être du politique est de désigner l'ennemi ». Autre exemple avec Paul Dumouchel et Jean-Pierre Dupuis, tous deux girardiens de la première heure, qui ont publié dès 1979 « L'enfer des choses, René Girard et la logique de l'économie ».
As-tu encore un exemple de domaine dans lequel Girard est intervenu ?
Il nous faut parler du christianisme. C'est bien plus qu'un domaine où il s'est penché d'ailleurs. La mort de Jésus sur la croix est partie prenante de son anthropologie, puisqu'elle révèle l'innocence fondamentale des boucs émissaires, et fait ainsi franchir à l'humanité un jalon essentiel de son aventure. Du coup, Girard s'est retrouvé à pratiquer l'exégèse théologique.
A-t-il, là aussi, bousculé les approches ?
Bousculer, c'est trop dire. Mais Girard apporte effectivement un point de vue nouveau sur le message chrétien. Pour lui, les Écritures contiennent la vérité de l'être humain, et il s'attache à montrer que leurs messages sont parfaitement cohérents avec la théorie mimétique. Pour le dire autrement, l'anthropologie girardienne n'est qu'une reformulation de la vérité anthropologique déjà exprimée par la Bible.
Peux-tu donner quelques exemples ?
Girard fait remarquer dans le Décalogue l'insistance à se détourner de l'envie. Tandis que tous les commandements sont formulés de façon concise, les deux derniers sont redondants et détaillés. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son bœuf, ni son âne, etc. Et dans le dixième commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui soit à ton prochain. Pour Girard, une telle insistance s'explique par la conscience aiguë de la force du mimétisme, qui suscite la convoitise et l'envie. Un autre exemple de l'apport de Girard en matière de théologie est son livre « La route antique des hommes pervers ». Il s'agit d'une analyse du livre de Job, livre qui a toujours posé des problèmes d'interprétation. Job est injuste, pourquoi Dieu accepte-t-il sa déchéance et ses souffrances ? Les amis de Job pensent que s'il est puni, c'est qu'il est en réalité coupable. Job refuse à la fois cette culpabilité et refuse aussi tout ressentiment à l'égard de Dieu. Girard montre comment ces questions s'éclairent avec une lecture selon l'anthropologie mimétique.
Justement, la compréhension du sens de la passion du Christ n'est-il pas un sujet de décalage entre la doctrine de l'Église et l'interprétation de René Girard ?
Tu as raison de revenir sur ce point, mais voir dans la crucifixion de Jésus un sacrifice identique à ceux des religions archaïques est une erreur, que même une certaine routine théologique ne reprend pas. Simplement, Girard apporte la clarté de ses concepts pour réaffirmer que la passion est précisément une dénonciation des mécanismes sacrificiels archaïques.
Merci Jean-Louis. Au revoir.
Au revoir Catherine. Merci aux auditeurs de leur écoute.